toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Bonjour et bienvenue dans Tous les cinémas du monde, une émission qui nous conduit cette semaine dans une zone sous tension, une banlieue de Paris où un plan de réaménagement urbain oppose le maire aux habitants. Le premier parle escalier en ruine, habitat insalubre, démolition obligatoire, maniant promesses et injonctions avec l'habileté propre aux hommes politiques. Les seconds dénoncent de nouveaux immeubles, certes flambant neufs, mais inadaptés, en tout cas pour les familles nombreuses qui habitent le quartier. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Et bonjour Ladjli.
Bonjour.
Bâtiment 5, c'est le titre de votre nouveau film, un titre qui claque comme la colère de votre héroïne Abby. Une jeune femme à la tête bien faite, une femme très impliquée dans la vie de sa commune, et la nouvelle de la destruction de l'immeuble où elle a grandi va la lancer tout droit sur le chemin de la guerre. Abby, c'est vous, Anta Diao. Bonjour.
Bonjour.
Je le disais, elle a la tête bien faite et elle va comprendre tout de suite que dans politique urbaine, il faut surtout entendre politique.
Pourquoi vous essayez de nous la faire à l'envers ? J'ai vu les plans des nouveaux immeubles des Grands Bosquets, là. Il n'y a rien qui est prévu pour les familles nombreuses, alors que de base, c'était quoi le plan ? Reloger tout le monde, non ?
Oui, oui, oui. Mais moi, je ne sais pas ce que tu avais comme plan. Mais c'est normal qu'un projet, tant qu'il n'est pas construit, il évolue encore un peu.
Ouais, ça, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais on fait comment pour faire rentrer des familles nombreuses dans des appartements où il n'y a pas plus de deux chambres ?
Mais ça, c'est la spécialité de certains, ça, non ? De remplir des appartements prévus pour une famille normale, avec 15 gamins, cousins et tantes débarqués du bled. Dis-moi, Abby, à quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier si c'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes ? Explique-moi.
Ok, on parle de quel problème, là, exactement ? Hein ? Problème de logement ? Nous, aujourd'hui, nos immeubles, on dirait des favelas empilés sur 10 étages. On parle de quoi, exactement ? De problèmes sanitaires ? Problèmes scolaires ? D'insécurité ? Droits des femmes ? On parle de quoi, exactement ?
On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. Ça va un moment. On va pas accueillir toute la misère du monde ici. Hein ? On a la plus grosse concentration d'étrangers tout le département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors ou quoi, toi ?
Mais je crois que j'ai loupé un épisode.
Bah, pas qu'un seul.
Vous, là, vos parents, ils sont pas venus d'Afrique les mains vides ?
Si, mes parents, ils sont venus d'Afrique les mains vides. Mais contrairement à d'autres, ils ont pas vécu d'allocation. Ils ont bossé dur pour se faire respecter et se faire une place dans cette société. Ça sera toujours ça, votre problème à vous qui n'aimez pas la France, surtout vous, les jeunes, là. C'est que même si ça vous déplaît tant d'être ici, ça vous plaît encore moins d'aller vivre dans vos pays pourris remplis de coupures d'électricité.
Vos pays pourris, pleins de coupures d'électricité. C'est aussi violent que ce dialogue, hein, que du Donald Trump. C'est un dialogue entre Abby, donc votre personnage, Anta Diao, et l'adjoint au maire, qui est joué par Steve Tiencheu. Donc tout est un peu posé dans ce dialogue, Ladjili. C'est comme un nœud coulant qui ne va cesser de se resserrer en fait, sur les personnages.
Oui, exactement. On a cette fameuse séquence dans le restaurant Ma Fait Bien Fait, qui est situé dans un appartement de l'immeuble, justement, un échange entre Anta, la protagoniste du film, et Steve Tiencheu, qui fait le rôle de Roger, qui est un élu. Et on comprend que les rapports sont assez difficiles. On comprend que, malheureusement, l'élu trempe dans pas mal de magouilles, pas mal d'arrangements. Et on comprend qu'Anta, qui est cette militante qui essaie de se battre au quotidien pour venir en aide à ses habitants, a vraiment du mal à trouver sa place dans cette société.
Et le racisme de ces mots, il est d'autant plus violent qu'il est noir, en fait, Roger.
Bien sûr, mais après, ça reste un élu. Je pense qu'il a oublié quelque part sa couleur de peau, il a oublié d'où est-ce qu'il venait. Et voilà, ça reste un élu de la ville qui défend avant tout les intérêts du maire.
Anta, comment il vous a dirigé, Ladjli, dans cette scène ? Parce que ça monte peu à peu en tension. Au début, on peut imaginer que vous pensez qu'il va comprendre vos arguments. Et puis à la fin, non, c'est définitif.
Oui, complètement. La direction sur cette scène, elle était assez simple. En face de moi, j'avais Steve Tiencheu, qui est un acteur très, très généreux. Et du coup, on a discuté au préalable de la scène, forcément, avec Ladj. Et effectivement, l'idée, c'était vraiment de montrer cette tension entre les deux personnages pour comprendre exactement les trajectoires qu'ils allaient prendre chacun.
Comment ils vous dirigez tous les deux?
Eh ben, avec l'âge, c'est très très simple en fait. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots. On a juste besoin de se regarder, d'échanger rapidement avec des petits gestes et puis on se comprend. Et si jamais l'intonation ou les termes ne conviennent pas, on se reparle rapidement et puis on réessaye.
Il y a beaucoup de prises?
Ça dépend, mais avec Quentin, en général, la première prise était la bonne, hein, pour être très, très, très franc. C'est vraiment une actrice incroyable. C'est pour ça que je veux dire, il n'y avait pas beaucoup d'échanges. Elle avait tout de suite compris le scénario, elle a compris son personnage. Donc, c'était assez fluide. Je donnais quelques directions, j'ajustais quelque chose, mais franchement, à chaque fois, c'était parfait. Quoi. Mais quand je vous le dis, la première, c'était la bonne. On en faisait à chaque fois deux, trois histoires de sécuriser, mais ça a été vraiment un plaisir de bosser avec elle.
Je précise, il y a beaucoup d'acteurs du film, dont Alexis Mananti, entre autres, hein, qui étaient. Vous avez une troupe autour de vous, hein, c'est sûr. Souvent les mêmes qui vous suivent, et entre autres depuis Les Misérables. Mais vous, vous êtes une nouvelle venue dans cette troupe. Qu'est-ce que vous avez vu au casting dans ses yeux qui vous a dit « elle sera Abby » ? Parce que tout le film repose sur vous.
Bien sûr, déjà...
J'exagère pas.
On l'a découvert dans Le Jeune Imam de Kim Chapiron, sur lequel j'avais bossé en tant que co-scénariste et coproducteur. Donc c'était son tout premier rôle, elle avait un second rôle. Et là, avec Kim, on s'est dit « ah, waouh, c'est incroyable, il se passe un truc. Il faut absolument qu'elle continue à tourner, il faut lui trouver des rôles. » Donc voilà, quand moi j'ai fini d'écrire mon scénario de Bâtiment 5, automatiquement elle a passé le casting et elle l'a remporté haut la main.
Vous aviez prévu, Ladjli, que Bâtiment 5 aurait une héroïne, enfin il y a beaucoup de personnages, mais ce serait porté par une femme.
Bien sûr, c'était prévu dès le début de l'écriture, parce que quand j'ai commencé à écrire Les Misérables, j'ai vraiment pensé comme une trilogie, je savais déjà qu'il y aurait trois volets. Donc oui, Bâtiment 5, c'était dans les cartons, on savait que c'était une héroïne la prochaine dans Bâtiment 5.
Oui, parce que Les Misérables, c'était très masculin
univers. Ça reste un univers masculin. C'est avant tout des rapports de force entre jeunes et policiers, et ça concerne surtout les hommes, donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'hommes. Mais j'insiste pour dire, on avait beaucoup de personnages féminins aussi dans Les Misérables, des personnages importants, des personnages forts, dont Jeanne Balibar. Donc voilà, les femmes étaient présentes, mais à la différence de Bâtiment 5, où on était surtout à l'extérieur, où on parlait de rapports de force entre mecs, là, Bâtiment 5, on est plus à l'intérieur, j'ai envie de dire, du bâtiment, où on découvre la vie dans ces appartements, dans ces cages d'escalier, et il se trouve que les femmes sont beaucoup plus présentes.
Comment elle est venue, la première image de Bâtiment 5? Parce que ici, avant de découvrir le personnage de Abby, c'est un plan aérien qui nous offre une vue panoramique sur la ville.
Bien sûr. L'ouverture du film Bâtiment 5, on a ce plan aérien. C'était déjà avant tout un petit clin d'œil aux Misérables, parce que c'est pas une suite des Misérables, mais c'est dans la continuité du propos que j'avais envie de mettre en place. Donc oui, on a cette ouverture avec ce plan drone. Pas oublier que dans Les Misérables, on avait le personnage de Buzz qui utilisait son drone et qui filmait un peu tout ce qui se passait dans le quartier.
Donc on a parfois les voisines et parfois les descentes de flics.
On a filmé des bavures comme ils pouvaient filmer les petites voisines par la fenêtre. Donc oui, on a repris ce drone et on doit avoir à peu près 4 plans drones dans le film. Donc voilà, c'était avant tout un petit rappel aux Misérables. Et surtout, c'était aussi important pour moi d'ouvrir avec cette scène de drone, parce qu'on parle surtout du logement, de rénovation urbaine. Et c'était important d'expliquer la situation géographique du quartier. Donc on ouvre avec un plan aérien où on découvre la ville et on rentre dans cette cité et on rentre dans cette tour jusqu'à descendre, finir dans la cage d'escalier.
C'est la même cité que dans Les Misérables ?
Oui, on a tourné dans la même cité, qui est Chêne Pointue, à Clichy-sous-Bois, et Montfermeil, dans la cité des Bosquets.
Et le film donc commence par cette vision panoramique, presque cette radiographie de la ville, et ensuite une scène très forte, puisque c'est un cercueil que l'on descend très difficilement, à pied, parce que l'ascenseur est bien sûr en panne. Une descente interminable qui permet de poser le décor.
Bien sûr.
Est-ce que vous pouvez nous raconter cette scène incroyable?
C'est la scène d'ouverture.
Comment vous l'avez filmée déjà?
Comment on l'a filmée? On avait deux caméras à l'épaule. Donc j'ai envie de dire que c'était presque un plan séquence. Donc voilà, on a fait toute la descente parce que pour moi c'était important d'ouvrir le film avec une séquence forte. Et en même temps, avec mon scénariste, on s'est dit comment raconter toutes les problématiques de ces quartiers en l'espace de 3 minutes, en une séquence. Et on s'est dit, la descente du cercueil, on a toutes les problématiques. D'ailleurs, il y a une phrase qui est dite pendant la séquence où une dame dit « on vit dans des conditions difficiles et on meurt dans des conditions difficiles ». Et ça définit un peu ce que ces habitants peuvent vivre. Donc on a cette fameuse scène où durant 4 étages où on a une descente de cercueil où la descente est assez compliquée parce que l'ascenseur ne fonctionne pas, donc on est obligé de descendre à pied, donc on a le cercueil qui a beaucoup de difficultés à descendre, donc je vous laisserai découvrir la scène au cinéma.
Ça devait être compliqué aussi à tourner, hein, avec beaucoup de monde dans les escaliers, un espace très exigu.
Bien sûr. Après, pour moi, c'est un vrai pari de pouvoir tourner dans des petits endroits comme ça, dans les cages d'escalier. On a pu le voir dans Les Misérables, on a cette séquence finale qui dure 15 minutes dans cette cage d'escalier. On rouvre cette séquence, dans la même cage d'escalier. Et oui, c'est pas évident d'avoir peut-être une cinquantaine de figurants, un cercueil, des équipes techniques, 2 caméras. Donc oui, c'est un vrai pari, mais voilà, on est assez content du résultat.
Et c'est presque. Et je voudrais que vous nous racontiez un peu comment vous avez écrit le film La Djli, parce que tout est un peu en miroir, c'est-à-dire autant les personnages que les scènes. Et quand je parle de personnages, c'est aussi donc cette vieille dame morte dont on est en train de descendre le cercueil. On entend sa fille qui dit, même dans sa mort, on ne l'aura pas laissée tranquille. Et en même temps, une autre mort, qui est celle du maire, qui décède d'un infarctus, donc juste au moment où il déclenchait en grande pompe la destruction d'un autre quartier vétuste, entre guillemets, de la ville.
C'est vrai qu'on a plusieurs morts dans le film. C'est vrai, dès l'ouverture, on a à peu près 2 voire 3 morts. Mais voilà, c'est, comme je dis, moi, je m'inspire surtout de la réalité, de ce que j'ai pu vivre. Comme je disais, le film est inspiré vraiment de faits réels. La seule séquence qui a été fictionnée, c'est vraiment la scène de fin où on a cette attaque dans la maison du maire. Donc après, tout le reste, tout est vraiment inspiré de faits réels, des choses que j'ai vécues, des choses que les habitants, mes proches ont vécues. Donc je m'inspire de cette réalité, notamment cette scène du cercueil que j'ai pu vivre, tout comme toutes les autres scènes du film.
Et le maire, il vous a été inspiré par qui? Je parle du nouveau.
Le maire, il m'a été inspiré de différents maires, des différents maires que j'ai pu rencontrer en Seine-Saint-Denis. Donc, ce n'est pas juste un maire, mais c'est un mélange de plein de maires de droite.
Et comme on parle aussi du tournage, des conditions de tournage, avant de passer à la suite de l'histoire, mais effectivement, il y a cette séquence incroyable où un discours du maire est un bâtiment qui est détruit. Alors là, ce n'est pas des effets spéciaux, ça, si?
Ah si, c'est le... Oui, on va dévoiler le truc. Et bien sûr, la destruction, ça reste des effets spéciaux. Et oui, effectivement, le plan de rénovation urbaine qui a été mis en place, moi j'ai le souvenir dans les années 92 où la toute première tour au Bosquet à Montfermeil a été détruite et ça a été à l'explosif. Donc c'est des images qui nous avaient marquées. Là encore, dernièrement, je revoyais encore les archives et c'était des images assez fortes. Et donc j'avais envie d'ouvrir le film avec cette séquence que j'avais vécue quand j'avais 12 ans. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus le droit de détruire cette tour à l'explosif. Donc d'où l'idée de faire des effets spéciaux. Parce qu'aujourd'hui, on est amené à détruire les immeubles à la grue. Et c'est moins impressionnant.
Et votre personnage, Antadio, assiste à cette démolition. Et on sent que même si les conditions de vie dans ces bâtiments sont impossibles, il y a un attachement.
Oui. Bien sûr.
De la population.
Exactement, il y a forcément un attachement parce que ces appartements-là, c'est des souvenirs, c'est une solidarité qui se crée entre les différents habitants. Et comme on le dit souvent, on a un peu l'impression de vivre dans des petits villages, dans ces tours-là, malgré tout. Donc forcément, il y a un peu de nostalgie, un peu de regret quand on assiste à ce genre de scène, effectivement.
Alors face à vous, Anta, il y a le nouveau maire, donc il est joué par Alexis Mananti, César du meilleur espoir 2020 pour Les Misérables qu'il avait coécrit avec vous, Djli. Donc lui, il fait partie de cette troupe dont je parlais tout à l'heure. Son personnage, alors on le sent très différent de l'ancien maire, il est plus jeune, probablement moins corrompu, mais assez paumé dans ses fonctions. On va l'écouter dans une scène clé du film, il est au téléphone avec sa... Vous me corrigerez si je me trompe. Djli, moi j'ai dit sa mentor politique qui est jouée par Jeanne Balibar. Voilà, sa conseillère. Mais leur conversation est sans cesse interrompue par un habitant du quartier.
Pierre, tu vois cette histoire de l'immigration choisie, par exemple. Ça te fait passer direct pour le méchant de service et c'est typiquement le genre de caricature de jeune réel.
Monsieur le maire, s'il vous plaît, accordez-moi juste un instant. Je vous explique. S'il vous plaît. Je suis au téléphone.
J'ai vraiment bien aimé ton argument sur l'arbitrage du cœur. J'ai trouvé ça fort, j'ai trouvé ça touchant.
S'il vous plaît, monsieur. Excusez-moi, juste un instant. Je suis au téléphone, s'il vous plaît, monsieur. D'accord? Écoutez-moi, monsieur. Je suis au téléphone. La mairie a refusé que je fasse une extension de mon garage.
Il faut faire attention avec ce genre de truc. La sincérité, ça peut très vite se retourner contre soi.
Permis. D'accord. Écoutez-moi, monsieur. S'il vous plaît, pourquoi vous ne m'écoutez pas ?
Donc je te retiens pas plus longtemps, tu as toute notre confiance, mais mot d'ordre, pas de vagues.
Je tâcherai de faire attention.
Monsieur le maire !
Bonsoir. Écoutez, monsieur, vous voyez bien que je suis au téléphone, là. Hein, je suis fatigué, j'ai une journée difficile, donc...
Mais moi aussi, je suis fatigué, monsieur le maire. J'en ai plus que marre de courir après toute cette paperasse de merde.
Ça suffit. Ce n'est ni l'heure ni l'endroit de parler d'une histoire de raccordement des bouts, là.
Hé, tu te fous de ma gueule, là ? Moi, ça fait 10 ans que je cours après ce papier. Hein ? En plus, t'as personne qui t'a élu. Allez, c'est ça, cassez-vous, là ! Putain de merde !
Putain de merde. Là, c'est un peu la fin de la politique que vous filmez de l'Ajli dans cet extrait. Le maire, donc joué par Alexis Mananti, il va avoir une dérive de plus en plus autoritaire. Mm-hmm. Donc on se demande bien quel homme politique a pu vous l'inspirer. Mais on sent aussi que vous le comprenez un peu, le maire.
Oui, on comprend. Après, c'est sûr que c'est jamais facile d'être maire et de diriger une ville. Mais après, à partir du moment où on est maire, on a quand même une responsabilité. Dans cette séquence, on se rend compte qu'il y a quand même un manque de dialogue. Et c'est ce qu'on reproche souvent, c'est qu'on a l'impression qu'on a du mal à communiquer, on a du mal à se faire entendre, à se faire comprendre entre les élus et les habitants. Et c'est ce que cette séquence raconte. C'est quelqu'un qui est en difficulté, qui a envie de refaire les travaux. Et ça fait 10 ans qu'il galère à obtenir un papier de la mairie. Donc, et c'est souvent ça le problème. C'est à partir du moment où on n'arrive pas à communiquer, bah forcément, ça devient des rapports de force par la suite.
Alors, on va écouter justement Alexis Mananti. J'ai pu le rencontrer il y a 15 jours. Et voilà comment il parle de son personnage.
Au départ, j'étais parti dans des espèces de projections où je voyais le personnage de manière un peu plus moderne, un peu plus agressif, un peu plus ostentatoire. Il m'a dit non, en fait, je veux créer une contradiction et je veux que ça soit un personnage discret, quelqu'un de la vie civile qu'on pourrait croiser tous les jours, qui a un côté d'un côté de sa vie, donc il est pédiatre, il est père de famille, on pourrait le croiser et avoir une discussion tout à fait saine avec lui et normale. Et puis en fait, on se rend compte très vite qu'il connaît très peu les habitants avec qui il vit, il connaît très peu sa ville, il est contre le dialogue. Il pense que la répression peut tout guérir. Et voilà, il a une politique réactionnaire et populiste.
Les Misérables, c'était un film, à la fois un film de genre, porté par un thème, les violences policières. Mais ça avait un côté film de genre, c'est-à-dire avec un montage au couteau, une forme très épurée et très nerveuse, très efficace. Dans ce film, on sent l'envie de traiter beaucoup plus de sujets, et on sent surtout, enfin, il m'a semblé qu'on sentait vraiment la colère qui gronde. Est-ce que vous l'avez senti, et est-ce que l'Adjli vous l'a fait sentir sur le tournage ou avant ?
Non, c'est exactement ça. Je pense que c'est un film qui est sur la colère et qui, en fait, je pense que voilà, il a tenté d'expliquer le trajet qui peut mener à la violence et à la colère, qui passe souvent par la frustration, l'humiliation, l'impression que d'autres prennent des décisions radicales pour votre vie à votre place, et comment, quand on se sent impuissant face à tout ça et qu'il n'y a plus de dialogue, certains peuvent penser que la violence est la dernière porte de sortie.
Comment ça se passe, un tournage de l'Adjli ?
Alors, c'est très familial. Il y avait la même équipe que sur Les Misérables. Et l'Adjli, il est comme ça. Il y a ses enfants qui viennent sur le plateau, la famille, des amis, d'autres réalisateurs. Donc c'est une espèce d'effervescence, c'est le jeu, c'est en dehors du moment où il y a le action est coupé, c'est pas sérieux, c'est très joyeux. Et après, d'un coup, quand il rentre dans le travail, ça devient vraiment assez technique, il fait attention à chaque détail et il sait exactement ce qu'il veut.
C'est-à-dire, vous avez un exemple précis en tête, Alexis ?
Dans Les Misérables, il y avait plus place à l'improvisation et il laissait plus place, peut-être parce que le scénario était comme ça et qu'il a essayé de construire le film sur l'immédiateté et ce qui pouvait arriver. Là, il avait vraiment une envie de faire un film beaucoup plus posé, déjà dans son mode de réalisation. Et du coup, il y avait moins de liberté, il savait exactement où il voulait aller, donc dans le ton, l'expression, les mots employés par les personnages. Les costumes, il avait vraiment une idée très précise de ce qu'il voulait.
Donc vous, en tant qu'acteur, ça veut dire que vous avez vécu une expérience un peu, voire très différente de celle du tournage des Misérables ?
Oui, c'était assez différent. Alors après, on a toujours notre collaboration artistique, et puis le fait qu'on soit amis, on se dit les choses sans passer par quatre chemins. Mais j'ai senti que vraiment c'était très préparé,
et qu'il était vraiment dans son coin et qu'il avait sa vision et son envie de raconter une histoire.
Un tournage très différent, dit Alexis. Je vois sourire.
Oui, non, mais c'est très juste que Alexis dit. C'est vrai que celle-là, c'était très différent des Misérables. Hein. Comme je dis, les Misérables, c'était un premier film. Voilà, on l'a fait vraiment à l'énergie. On avait très peu de moyens pour le faire. C'était caméra à l'épaule. Et voilà, et là, pour le bâtiment 5, j'avais envie de proposer autre chose. Je me suis dit, OK, les Misérables, on l'a fait. Le film a plutôt bien marché.
Plutôt, 2 millions, ouais. C'est ça, d'entrée.
Ouais. Et donc, j'avais envie de proposer autre chose, d'avoir un film plus posé, même au vu du sujet, parler du mal logement. C'est sûr que c'est un sujet beaucoup plus posé. Et donc, je me suis dit, comment poser les choses tout en ayant tout le temps du rythme, parce que voilà, faut pas que ça soit chiant. Donc, voilà, on a essayé de faire une autre proposition. On s'est dit, voilà, le pari, c'était de mettre le paquet sur la mise en scène avec mon chef-op Julien Poupard, avec qui on a beaucoup travaillé. Donc là, on est assez content du résultat et on sent que c'est différent des Misérables.
Oui. Il y a un contraste entre le maire, donc joué par Alexis Mananti, que vous avez dirigé dans le sens d'une sorte de sobriété, enfin, effectivement quelqu'un qu'on pourrait croiser dans la rue, et votre personnage, Anta, alors qui n'est pas non plus surexcité, hein, mais qui est plus virulente. Bon, déjà, ce n'est pas la même génération en plus. Et...
Ouais, non, c'est vrai qu'il y a un certain contraste. C'est vrai, comme vous l'avez dit, que le personnage d'Alexis, donc Pierre Forge, est un peu plus posé, un peu plus sobre. On arrive à comprendre, du coup, à travers cette sobriété, qu'il ne sait pas vraiment là où il met les pieds, qu'il avance un peu à tâtons, contrairement à Abby, qui, elle, sait exactement où elle vit, elle sait exactement ce qu'elle veut. Et du coup, effectivement, on a un personnage un peu plus expressif, on va dire, que le personnage de Pierre. Mais effectivement, il y a une scène où... Je ne vais pas dévoiler la scène, mais il y a une scène où les deux personnages ont une petite discussion. Et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on arrive un peu à un croisement entre leurs émotions.
En fait, Abby, elle est ancrée. Et lui, c'est pas très bien où il est. Est-ce que je peux le dire comme ça?
Bah oui, je pense que le personnage, c'est un peu ça. Aujourd'hui, ce personnage raconte que malheureusement, souvent, on a des politiques qui connaissent pas du tout le terrain, qui ont jamais mis les pieds dans ces quartiers, qui sont amenés à diriger une ville et
lui,
à prendre
il est déjà en train
des décisions.
De réfléchir, il voudrait bien devenir ministre.
Mais bien sûr, il pense déjà à sa carrière politique, comme beaucoup d'hommes politiques, malheureusement. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de dénoncer. À un moment donné, bah, ce serait bien qu'on ait des politiques qui connaissent au moins les terrains, qui savent au moins comment les gens vivent. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Donc, comme je dis, il a amené par la suite à prendre des décisions qui vont être dramatiques.
Alors la politique, on va en reparler à travers d'autres personnages, mais avant, une pause musicale, c'est le choix d'Apolline Verlon, notre réalisatrice, une pause musicale avec NTM, Le Monde de Demain.
Prenez le 7 en famille, appelez la banlieue de Paris, depuis tout jeune, je gravite avec le but uni, d'imposer ma présence, trop pincée pour travailler, trop fière pour faire la charité, oui je préfère la facilité. Considérant que le boulot m'amènera plus vite au bout du rouleau, alors réfléchissez, combien sont dans mon cas aux abords de vos toits, et si cela est comme ça, c'est que depuis trop longtemps des gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux qui asphyxient la jeunesse qui réside aux abords, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Ne vous étonnez pas si quotidiennement l'expansion de la violence est telle, car certains se sentent seulement concernés lorsque leurs proches se font assassiner. Est-ce si la liberté, égalité, fraternité? J'en ai bien peur.
Le monde de demain, tant qu'il advienne, nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Devient un acte trop banal, alors
Fulchen et Joey Starr qui chantent « Les jeunes changent, c'est ce qui dérange ». Abby, elle aussi, elle va beaucoup, énormément changer, grandir, mûrir au cours du film. Et là, sauf erreur de ma part, la première fois qu'on la voit sourire, c'est quand son amoureux, Blaze, donc joué par Aristote Louindoula, brûle un panneau promotionnel qui chante les mérites de la nouvelle cité. Pourquoi elle sourit à ce moment-là ?
Moi, ce qui me frappe en tout cas dans cette scène-là, c'est que je pense comprendre que Abby et Blaze, ils ont exactement la même colère. Et donc le fait que Blaze brûle cette affiche, et que ce soit pas elle, ça lui fait un peu plaisir. Mais ce qui me marque aussi, c'est que on arrive à comprendre la fracture entre les deux personnages à ce stade-là. On comprend qu'ils ont peut-être pas les mêmes idées, malgré le fait qu'ils aient la même colère. Et du coup, je trouve ça intéressant pour la suite du récit.
Mais ce moment-là, il est émouvant parce que bon, il rappelle énormément le début du Malcolm X de Spike Lee. On aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Mais il est émouvant parce que c'est comme si ces personnages qui sont complètement débordés par des décisions que les politiques prennent au-dessus de leur tête, tout à coup mener une action, même si c'est une toute petite action. Pas forcément recommandable, hein, brûler une affiche. Mais en tout cas, c'est le moment où ils reprennent la main.
Oui. Oui, ouais, c'est vrai. C'est le moment où ils réalisent effectivement qu'ils ont peut-être quelque chose à faire de leur côté. Et Blaze le manifeste en brûlant cette affiche-là. Mais c'est effectivement un moment charnière, je pense, dans le film.
Abby, elle est déjà, elle, dans l'action. Elle est dans une association.
Ouais.
Elle aide les habitants démarche administrative.
Exactement, elle est à la tête d'une association de quartier et les habitants ont l'habitude de la solliciter quand ils ont des difficultés, que ce soit administratives ou autres. Et on comprend exactement que c'est une personne qui est très altruiste et qui est une figure très importante au sein du quartier.
Et elle ne pense pas forcément, elle, à faire de la politique à l'origine ?
Non, je pense pas. Je pense que ce qui la pousse, c'est effectivement toutes les discussions qu'elle a, notamment celles qu'elle a avec Blaze. Et c'est au fur et à mesure du film qu'elle se rend compte qu'elle a quelque chose à faire et que la seule manière de faire bouger les choses, c'est à travers la politique.
Chaque personnage, en fait, dans votre film, la Jilly, c'est un monde en soi. C'est-à-dire, il y a les vieux qui s'entraident, qui réparent des voitures, il y a le maire qui est complètement dépassé, qui envoie les CRS parce qu'il y a eu un tag sur la voiture de sa femme. Il y a la femme du maire, alors qu'elle incarne la bonne bourgeoisie de gauche, hein, celle qui veut faire le bien.
Bien sûr.
J'ai syrien aussi.
J'ai voulu raconter mon village. Ce village qui est mon quartier, et on découvre que dans ce village, on a plein de personnalités. Et moi, c'est important d'avoir plusieurs personnages dans ce film, et c'est pas juste un personnage principal. Là, on part du principe que dans le film, il y a plusieurs histoires qui sont racontées, il y a plusieurs sujets qui sont abordés, différents personnages. Et l'idée, c'était comment, en une heure et demie, on pouvait faire exister tous ces personnages en leur donnant de la profondeur, en leur donnant un rôle qui était important. Et voilà, il était là le pari, et c'est jamais évident d'écrire un film choral. Donc voilà, j'ai voulu faire exister tous ces personnages et décrire comment on évolue dans ce village avec tous ces personnages.
Et justement, au cœur de ce village, il y a ces deux jeunes en colère face à toute cette violence, toutes ces assignations aussi, hein, dont ils sont les victimes. Hein, on l'a entendu d'ailleurs dans le premier extrait face à l'adjoint au maire. Et comme on le verra, en fait, la colère, elle va faire prendre à Blaze et à Abby des chemins très différents.
Tu viens la rejoindre ?
Quoi ça ?
Pour lutter, pour montrer qu'on est là, nous aussi, vas-y.
C'est ça que t'appelles lutter ? C'est ça, by any means necessary. C'est mignon, mais ça sert à rien. C'est très bien, quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise. La politique, c'est pas pour nous.
Ah ouais ? Bah pourquoi t'as brûlé l'affiche l'autre soir alors ? C'était pas politique, ça ?
Non. C'était pour le plaisir. Ça sert peut-être à rien, mais ça soulage.
En fait, on peut pas être que en colère. On peut pas. Si on en a marre de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir. C'est à nous de montrer qu'on existe, qu'on compte et qu'on sait gérer notre ville nous-mêmes.
C'est très bien que ceux qui viennent de nos quartiers, qui font de la politique, ils pensent qu'à leur gueule aujourd'hui. Regarde ce gros port de Roger.
Toi, qu'est-ce que tu fais ? À part critiquer H24, qu'est-ce que tu fais, Blaze ? Dis-moi.
Parce que tu crois vraiment qu'en faisant ça, tu changes les choses ?
Tu traînes des pots d'échappement toute la journée, tu te fous de ma gueule ou quoi ?
Tu pars du garage de mon daron ? Tu crois que ton assoce, il y a quoi ? Tu changes quoi ? Tu changes la vie de qui ?
Moi, je les aide, moi, j'ose, d'accord ?
T'oses quoi ?
T'es là, tu fais ton vieux Malcolm X à deux balles, là.
Ouais ? Vas-y, tu sais quoi ? Va rejoindre ta kermesse de merde. Tu fais l'ancienne, hein ? Madame la Présidente, vas-y.
Mais bien sûr que j'y vais, tu
bah
crois
vas-y,
quoi, toi
vas-y, bah casse-toi.
Moi, il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire.
Ouais, vas-y.
Là aussi, Anta, c'est une scène cruciale du film. Hein, mmh. Parce que c'est le moment où, en fait, elle s'est opposée au maire, elle s'est un peu mise en lumière, hein, même à son corps défendant. Et puis là, c'est la séparation avec son amoureux, parce qu'on comprend qu'ils n'ont pas du tout pris... les mêmes causes n'ont pas provoqué les mêmes effets chez l'un et l'autre.
C'est ça, exactement. C'est le moment où leur chemin se sépare. Et où je pense Abby commence à peut-être avoir cette graine qui grandit en elle et elle commence à penser à la politique. Et on comprend exactement en fait ce qui les oppose, elle et Blaze. Ça me fait sourire parce que c'est une scène qui était assez importante dans le film. Et du coup avec Aristote on en avait beaucoup beaucoup discuté. Mais on n'a pas voulu non plus trop la répéter pour toujours avoir cette justesse et cette authenticité. Donc on était très contents de la fin de cette scène.
Ladjli, vous vous sentez proche de ce personnage, de Abby et de ce qu'elle dit ?
Oui, bien sûr, complètement. Je me sens proche du personnage de Abby, je me sens aussi proche du personnage de Blaze. Donc oui, bien sûr, dans les deux personnages, je me retrouve un petit peu. Et après, bien sûr, quand on voit cette séquence, on comprend qu'à partir de là, bah, y a une séparation et Abby va mener son chemin, va mener son combat. Et à partir de là, on comprend qu'elle a vraiment décidé de s'engager politiquement pour faire changer les choses. Et le message, il est là. C'est, voilà, nous, on a vécu toutes ces violences en 2005 avec les révoltes suite à la mort des deux gamins. On a vécu d'autres violences, là dernièrement encore avec la mort du jeune Naël. Bah, toute la France est embrasée. On se rend compte que bah, ça ne fait pas changer les choses. Malheureusement, il n'y a rien qui bouge. Et...
Ça, vous n'avez pas vu là depuis... Donc c'était en juillet, hein, les violences, toutes les émeutes dans la France entière.
Bien sûr.
Il y a eu des grands discours de politique.
Des grands discours, mais comme d'habitude, quoi. Des grands discours. Et à la finale, bah, les choses s'empirent et les choses ne s'arrangent pas. Donc maintenant, à un moment donné, bah, il va falloir trouver d'autres solutions. Et c'est ce que le film raconte aussi. La solution, elle est surtout politique. Donc à un moment donné, cette génération, il va falloir qu'elle s'intéresse à la politique. Il va falloir qu'elle s'engage politiquement, qu'elle ait des nouvelles idées, qu'elle monte des partis et qu'elle prenne le pouvoir. Et si on veut faire changer les choses, malheureusement, bah, ouais, c'est la politique qui peut faire en sorte que les choses évoluent vraiment, quoi.
Oui, c'est pas du tout un film désespéré, Bâtiment 5.
Ah non, au contraire, c'est un film qui a beaucoup d'espoir, malgré toutes les difficultés, malgré le contexte, malgré la difficulté de tous ces habitants. Il reste de l'espoir, et notamment avec ce personnage de Anta, qui incarne vraiment l'espoir et qui dit qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut continuer à se battre, qu'il faut militer, qu'il faut s'engager politiquement.
Vous, Ladjli, en 2007, vous avez appuyé, je crois, une campagne pour le vote dans les banlieues, dans les quartiers défavorisés. Mais moi, quand j'entends le personnage de Abby qui dit « je suis une Française d'aujourd'hui », ce que j'entends surtout, c'est « je peux être présidente ».
Bien sûr.
C'est ce que j'entends. Est-ce que j'ai
bien
tort
sûr. Je peux être maire, je peux être présidente, pourquoi pas.
Députée, sénatrice.
Bah, ouais, pourquoi pas. Parce que, enfin, je vais dire, on reste Français. Enfin, je vais dire, on est des Français avant tout, donc... qu'on n'aurait pas le droit, nous, d'accéder à des postes de maire ou autre, de député. Donc oui, j'encourage en tout cas cette génération à y croire. C'est important d'y croire aujourd'hui. C'est important d'y croire malgré toutes les difficultés. Je pense que l'engagement politique devrait même être un devoir.
Vous, vous êtes engagé, je crois, non, sur une
bien
liste
bien sûr, bien sûr. Bah, c'est pareil. Moi, je milite depuis que j'ai 16-17 ans. Bah, à un moment donné, quand on a voulu que les choses bougent, bah, on a monté une liste où j'étais en tête de liste avec des amis. Et voilà, on s'est présenté. Bah, on a perdu 250 voix, mais on était à deux doigts de prendre la mairie. Donc voilà, le combat continue.
Vous, Anta Diao, la politique, ça vous tenterait ? Je n'ose dire, ça vous tente, parce que vous avez une belle carrière d'actrice aussi devant vous.
La politique, non, c'est pas quelque chose qui me tente, mais ce que j'ai trouvé incroyable avec ce film-là, c'est que je me suis questionnée moi-même, en fait, en tant que citoyenne. Je me suis dit, est-ce que tu fais assez ? Est-ce qu'il serait pas temps aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on peut, nous aussi, agir ? Parce qu'effectivement, comme Abby le dit dans le film, on peut pas être que en colère, et parfois, il faut aussi savoir prendre ses responsabilités et essayer d'agir.
Ladjli, on parlait tout à l'heure du succès des Misérables, donc 2 millions d'entrées, prix du jury au Festival de Cannes, 4 Césars, dont celui du meilleur film. Comment vous l'avez vécu, ce moment-là ?
Bah, c'était un moment assez magique. Hein. En faisant le film, à aucun moment on s'est dit que le film allait avoir un tel succès. Nous, on l'a fait avec très peu d'argent. On s'est dit que si on arrive à faire 200-300 000 entrées, ce serait parfait. Et finalement, on fait plus de 2 millions d'entrées. voilà, on va au César, on porte des Césars, on prend un prix à Cannes, on représente la France aux Oscars. Donc c'était un rêve, quoi.
Je vous cite, hein, je suis partie de rien, dans Télérama, je crois. Mmh. Le cinéma était à des années-lumière de mon quotidien. Produire mon premier film m'a pris 15 ans, mais j'ai réussi. Et on se dit que finalement, l'école Courtrage-Mé, elle vient aussi de là. Enfin, le concept que vous allez nous décrire hein, de Courtrage-Mé vient de là.
Bah, totalement. Moi, je parle de mon expérience. Après avoir galéré plus de 15 ans, moi, je me dis, ouais, c'est sûr que si j'aurais pu faire une école de cinéma, ça m'aurait peut-être facilité. Mais malheureusement, je n'avais ni les moyens, ni le réseau, ni le niveau d'études pour accéder aux écoles de cinéma. Donc, à partir de ce constat, je me dis, je vais créer une école qui est gratuite, ouverte à tous, sans condition de diplôme, sans limite d'âge. Donc, tout le monde peut s'inscrire. On a des candidatures de vraiment toute la France. Et donc, on est assez fiers de ce projet. Ça va faire maintenant 6 ans que l'école existe. On a ouvert la première à Montfermeil, une seconde à Marseille, une troisième à Dakar, une quatrième à Guadeloupe. Et là, on ouvre à New York à la rentrée prochaine. Donc, on continue à développer ces écoles. Et surtout, on se rend compte que ça fait du bien. Ça redonne de l'espoir à tous ces jeunes qui sont à l'école. Ils se disent que c'est possible aujourd'hui parce que le cinéma, ça reste un milieu assez fermé. Et avec l'école, ils se disent oui, on peut y arriver. Et donc, je pense que c'est un message qui est plutôt cool.
Et au Sénégal aussi, comment vous l'avez ouverte il y a 2 ans, 3 ans?
C'est la troisième année à Dakar.
Troisième année.
Ouais,
troisième vous avez année déjà beaucoup d'élèves?
Bien sûr, on a en moyenne 40 élèves par promo.
C'est un peu panafricain ou c'est que des Sénégalais?
Non, c'est ouvert à toute l'Afrique de l'Ouest. Donc on a des candidatures du Sénégal, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire. Donc ça arrive de toute l'Afrique de l'Ouest. Et après, l'idée aussi, c'est de développer surtout des écoles en Afrique. Donc la prochaine, normalement, on devra ouvrir à Abidjan. Voilà.
Donc c'est le projet.
Le projet, l'idée, c'est d'ouvrir des écoles partout, dans tous les continents et développer le cinéma.
Et qu'est-ce que vous entendez? Parce que j'imagine que vous y allez souvent à Dakar, enfin peut-être pas autant l'année dernière où vous avez tourné et monté le film, mais vous y allez. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que ces jeunes de Dakar, filles ou garçons? Peut-être plus de garçons quand même.
Non, pas
que,
du tout.
On joue
la parité 50-50 dans toutes les écoles.
D'accord. Ah, et qu'est-ce qu'ils ont envie de filmer? Plutôt de la fiction, des documentaires?
Surtout de la fiction, de la série. À Dakar, on développe surtout les séries parce qu'il y a une grosse demande au niveau des séries. Donc, on développe et des séries et du court-métrage. Donc voilà, on les forme au métier au scénario, à la réalisation. Et on se rend compte qu'il y a une énergie qui est incroyable. En 2 ans et demi, on a déjà produit 6 courts-métrages. Il y a des courts-métrages qui tournent dans les festivals. Ils ont remporté différents prix. Donc, on se rend compte qu'il y a une énergie qui est dingue. Il suffit juste de leur donner quelques clics pour qu'ils puissent s'exprimer. Là encore, il y a les prochains courts-métrages. Je pense qu'il y a une comédie musicale qui est tournée dans Dakar. Donc, il y a plein d'idées incroyables. Donc voilà, à chaque fois, c'est des belles surprises. C'est des élèves motivés, déterminés, qui vivent à l'école. Il y en a qui sont à l'école, ils ont leur sac à dos, sac de couchage et ne quittent plus l'école. Donc on est assez contents de ce qui se passe à l'école Courtrage-Mé Dakar. J'en profite pour remercier Toumani Sangaré et Emma Sangaré qui sont les directeurs de l'école et qui gèrent ça très bien.
Bâtiment 5, justement, j'espère qu'ils auront l'occasion bientôt de le découvrir à Dakar. Est-ce que le film va circuler
bien
un
sûr,
peu
il va
dans
circuler
les salles
aussi en
Afrique,
notamment au Pâté Dakar. Donc je vous invite à aller le voir.
Merci Ladjli et merci Anta Diao. Vous restez encore un peu avec nous dans quelques minutes, le journal du cinéma de Sophie Torlotin et avant, le duo franco-angolais Bonga Gabriel Saglio.
Voilà longtemps que tu t'étais perdu. Voilà longtemps que plus rien n'était sûr. Voilà longtemps que tes sens aux aguets t'avaient tremblé à chaque pas que tu fais. Voilà maintenant qu'une cantine bruyante. Voilà maintenant mes étranges qui te tentent. Voilà maintenant que se tisse une toile de mots nouveaux sous les mêmes étoiles. Oulou, 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 loin. Oh ma lune sous ton regard tendre. Loulou, 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 loin. Tu veilles les hommes ce qu'ils inventent là. Aïe, ouais, Nabiché, la gawe.
Bayonne, Makuma me atoshana, Odo, Banaka Shomushema, Palakusa la Kambote,
Ma lune sous ton regard tendre. Loin, tu veilles les hommes et ce qu'ils inventent là. Voilà longtemps que Cédric est le mot normal. Voilà longtemps que l'étranger ne s'était porté pâle. Voilà longtemps et cette fois qu'il est bon. Dérive du quotidien, s'éloigne sur un pont. Voilà maintenant que ton honneur t'affole. Voilà maintenant que tu quittes ton rôle. Voilà maintenant, poète, il est temps. Tel Rabindranath Tagore, livrer tes rythmes au vent. Loin, oh ma lune, sous ton regard tendre. Loin, tu veilles les hommes, ce qu'ils inventent là. Mais dis-leur enfin que tant de voisins sont si beaux. Mais dis-leur enfin que tant de mêmes rêves montent là-haut. Mais dis-leur enfin que tant de voisins sont si beaux. Mais dis-leur enfin qu'ils rêvent tous d'un même jour nouveau.
Et c'est le moment de feuilleter le journal du cinéma avec vous, Sophie. Et d'abord, une bonne nouvelle pour le cinéma marocain.
Prophète en son pays, une fois n'est pas coutume. Pour la première fois, l'étoile d'or du festival de Marrakech a été décernée à un film marocain. Le documentaire « La mère de tous les mensonges » de la cinéaste Asmaï El-Moudir, que nous avions découvert à Cannes en mai dernier, ce documentaire a donc décroché la plus haute récompense du festival de Marrakech. La réalisatrice de 32 ans explore tous les non-dits de sa famille et au-delà du royaume marocain pendant les années de plomb du règne de Hassan II, notamment la répression dans le sang des émeutes de la fin de 1981. À savoir que le prix du jury a par ailleurs été décerné ex aequo au réalisateur marocain Kamel Lazrak pour L'Émeute et à la réalisatrice franco-algérienne Lina Swalem pour Bye Bye Tibériade.
C'est un pays tout neuf sur la carte mondiale du cinéma.
Un pays qui célèbre son indice du bonheur national brut, mais qui n'a pas d'industrie cinématographique. C'est même le dernier pays du monde à avoir introduit la télévision. C'était en 1999. Je parle du Bhoutan. Eh bien, le réalisateur Pawo Choining Dorki sort dans son pays son deuxième long métrage, Le Moine et le Pistolet. Le film Le Moine et le Pistolet s'immerge dans les débuts de la démocratie au Bhoutan, largement lié à l'arrivée de la télévision, donc en 1999. Les premières élections libres datent de 2008 au Bhoutan et ont accompagné la transition historique d'une monarchie absolue vers la démocratie, donc dans ce petit état himalayen coincé entre l'Inde et la Chine. Le Moine et le Pistolet représentent le Bhoutan dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger et c'est la deuxième fois que cela arrive dans l'histoire du pays.
Enfin, Sophie, le réalisateur de Bac Nord participe à un documentaire qui promet d'être historique.
Et oui, historique.
Dites-nous tout.
Historique, car c'est un documentaire sur le président Emmanuel Macron. C'est la Tribune dimanche qui a révélé l'information. Le réalisateur principal reste inconnu, mais lui, il est conseillé par Cédric Gimenez. Vous le connaissez dans le réalisateur, là,
Oui, bien sûr, je connais très bien Cédric. D'ailleurs, je le salue.
Et donc, Cédric Gimenez conseille sur ce documentaire, dont le tournage a commencé pendant la campagne présidentielle de 2022. Et puis, en fait, le tournage devait s'arrêter. Et puis, il a continué parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Et puis, évidemment, tous les événements que l'on connaît depuis. Le tournage est censé se poursuivre toute l'année 2024.
On se quitte en musique et en douceur avec Mokouyaté et Gabi Hartmann. Merci Ladjli.
Merci beaucoup.
Et merci Anta Yao.
Merci.
Votre film Bâtiment 5 est sorti en salle ce mercredi.
Navala, na fana fori ebene wotan kabi fonle na mua mantanu mudera de sentima mutuba kumbama mumuke mafurukuma
du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Apolline Verlon.
Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur RFI ou sur Pure Radio. La semaine prochaine, nous partirons au Sénégal avec le festival Dakar Court. Et d'ici là, bonne semaine à tous. Hey.